L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 22h06. Nous sommes à Bruxelles, au cœur de l'été 2006. L'avenue Louise, comme à son habitude, en cette période de l'année, transpire la vie avec une circulation dense et des passants qui la traversent de long en large. Dans un appartement tout près du cœur de l'artère, un homme dans le noir regarde sa télévision. Nous sommes le 9 juillet 2006. Dans quelques instants, Zinedine Zidane, capitaine de l'équipe de France, va mettre un coup de boule qui va entrer dans l'histoire. L'homme sur son divan s'appelle François de Keersmaeker. Il est président de la Fédération Royale Belge de Football et il enrage. La Belgique, elle, n'a même pas participé à la compétition. Ce soir-là, alors que l'histoire se joue derrière son petit écran, il s'apprête à prendre des décisions qui vont changer le cours du destin des Diables Rouges. Une génération dorée, elle, est déjà prête à frapper à la porte de la sélection. 22h06, l'heure H de mon histoire. Quelques instants plus tôt, alors que la prolongation entre la France et l'Italie est en cours, François se lève et se rend dans sa cuisine. Il ouvre son frigo, prend une bouteille de bière fraîche et la décapsule. Le liquide frais coule dans sa gorge. Quelques gouttes de condensation formées contre la paroi de verre viennent mourir sur son alliance. Sa femme est déjà partie se coucher. Bon, de toute façon, il aime rester seul les soirs de match. Ça l'aide à réfléchir. François est président de l'institution fédérale depuis seulement un mois, de manière effective. C'est encore assez récent. Derrière l'écran, l'arbitre siffle le début du deuxième acte de la prolongation entre la France et l'Italie. Dans 15 minutes, si pas de nouveau but, ce sera la séance des tirs au but. Toujours un jeu de hasard, d'autant que deux excellents gardiens se font face aujourd'hui. Dans le coin gauche, Gigi Buffon, le rock italien. De l'autre, le crâne le plus emblématique du foot depuis 1998, Fabien Barthez. Mais bon, si on pouvait empêcher que les Français gagnent une deuxième étoile, François a donc du sang italien ce soir. Il aime leur grinta, leur niaque. Il n'a regardé aucun autre match du Mondial, trop douloureux. Non, la Belgique n'a même pas été du voyage en Allemagne. Pourtant, le tirage des éliminatoires n'était pas insurmontable. L'Espagne en chapeau 1, certes, mais après, c'était le néant ce groupe. Serbie, Bosnie, Lituanie, Saint-Marin. Les mots du sélectionneur après le tirage lui résonnent encore en tête ce soir, alors que les Français sont à l'attaque et que les commentateurs de TF1 s'égosillent. Une fois les adversaires connus, Aimé Antuénis avait déclaré « C'était prévu, comme nous étions dans le chapeau 2, de tomber sur un gros morceau. L'Espagne sera le favori du groupe avec toutes les stars du Real Madrid. Et pour le reste, il s'agit d'un bon tirage, même si je dois avouer que je ne connais pas grand-chose des équipes comme la Serbie et la Bosnie. Mon homologue israélien m'a dit qu'il avait vu la Bosnie et que c'était une bonne équipe. Et cela devra aller avec la Lituanie et Saint-Marin. Du pur amateurisme à la Belge. Alors que François termine sa bière et dénoue son nœud de cravate, il va ouvrir la fenêtre qui donne sur l'avenue. Peu de personnes doivent regarder le match ici, si ce n'est la forte communauté italienne et les passionnés de ballon rond. Mais lui, ça lui permet ce soir de développer une nouvelle stratégie. L'idée a germé lors des éliminatoires pour le mondial allemand. Ah, le sélectionneur a vendu la Lituanie et la Bosnie comme des adversaires faciles. Match nul à domicile contre les Lituaniens et défaite cinglante contre la Bosnie puis l'Espagne. La seule équipe que la Belgique a battue deux fois, c'était les amateurs de Saint-Marin. Quelle performance historique! Ridiculisés, les Diables ont terminé à la quatrième place de leur groupe de qualification. Pas de mondial, pas même de barrage, une honte absolue, un drame sportif national. De colère, François serre sa bouteille vide. Il manque de se l'exploser dans la main. Pour la première fois depuis 1978, le pays ne participe pas à la belle aventure du mondial. La magnifique armada des années 80, presque à tous les coups dans le dernier carré, est déjà loin. et il fallait que ce soit lui qui récupère les débris d'une sélection à la peine. Mais il est l'homme des défis, il n'en a cure. Au contraire, il espère pouvoir développer son plan. Sa vision est celle de faire confiance à une jeunesse qui doit prendre le pouvoir. Depuis déjà 2 ans, les techniciens provinciaux lui font remonter que les centres de formation du pays regorgent de jeunes qui vont pouvoir porter haut les couleurs de leur club. Certains d'entre eux commencent même à jouer en professionnel, établissant des records de précocité. Leur nom, Mertens, Company, Van Buyten. Ces joueurs qui vont intégrer les espoirs à sa demande regorgent, il l'espère, de niaques et de qualités qui vont bientôt éclabousser le monde du football belge. François se relève, retourne au frigo, plus de bière, il grommelle. Bon, eh bien ce sera de la citronnade faite par sa femme dans l'après-midi. Après tout, c'est pas plus mal pour avoir les idées claires. À l'écran, les joueurs attaquent la 107e minute de jeu, encore 13 minutes. Et ce sera la séance de tir au but tant redoutée. René Van Der Ecken, star des Diables, lors des plus glorieuses années 80, remplace immédiatement après cette déconvenue le sélectionneur démissionnaire, qui s'était vu trop beau. Le prochain objectif maintenant, c'est l'Euro 2008, dans 2 ans. Mais l'objectif est double. Les JO de Pékin se profilent. Et c'est ça, la véritable cible de François. Faire confiance aux jeunes pousses en Chine, créer une cohésion qui viendra percuter et mettre dehors la vieille génération imparfaite de l'équipe A. Il sourit. La citronnade est bonne, sa prémonition aussi. Il est certain que cette structure peut fonctionner. Les autres administrateurs, pourtant, n'ont pas tout de suite été convaincus par cette vision un peu trop orientée vers la jeunesse à leur goût. Mais François n'a rien lâché. Et finalement, l'évidence s'est imposée. La Belgique n'a plus le choix. Construire à la base ou sombrer au classement FIFA et revivre année après année les désillusions répétées de la campagne de qualification de 2006. Et ça pour François, il en est hors de question. 110e minute de jeu. Depuis 2 minutes déjà, il semble qu'une échauffourée soit au cœur des débats sur la pelouse de Munich. L'Italien Materazzi est au sol et semble se tordre de douleur. Les premières images arrivent. Le capitaine français, Zidane, lui a flanqué un coup de boule en pleine poitrine. C'est le carton rouge. François est scotché. Le commentateur phare de TF1, Thierry Gilardi, s'exclame la gorge nouée. « Oh Zinedine, Zinedine, pas ça, pas ça, pas ça Zinedine. Oh non, pas ça aujourd'hui, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. » La séquence déjà entre dans la légende par la grande porte. François, lui, n'est pas mécontent. L'Italie file vers la couronne mondiale. Bientôt, il l'espère, la Belgique et ses diables seront eux aussi sur le toit du monde. C'est août 2008. Nous sommes à Shenyang, en Chine. La Fédération belge de football termine son premier match des Jeux Olympiques. François de Kersmacher est dans les tribunes. Vincent Kompany, lui, est sur le terrain et il a mal au crâne. Son pays vient de s'incliner face à la surpuissance brésilienne sur le score de 1-0. Un but à 10 minutes de la fin du match sur un amour de frappe de Hernanes a mis un terme aux espérances des Diables. Alors certes, le coach a été rassurant en expliquant aux jeunes sur le terrain que cette défaite est néanmoins encourageante. Mais c'est très loin d'être suffisant. Ils viennent en Chine avec des ambitions, les espoirs. Bientôt, des places vont se libérer en A. Il va falloir saisir les opportunités, ne pas rater le train de la sélection. Vincent Kompany ne joue déjà plus en club en Belgique. Il a quitté ses formateurs à Anderlecht pour rejoindre un groupe allemand historique, le Hambourg SV. L'équipe allemande lui fait confiance. Ses performances sur le terrain pèsent dans la balance. Son âme de leader et son charisme commencent à s'exprimer sur les terrains. Comme un général sur un champ de bataille, Kompany n'hésite pas à jouer de la voix, à invectiver ses coéquipiers, pas à ses propres marquages, et à montrer l'exemple. Déjà, cet esprit de capitaine prend toute sa place lorsqu'il enfile la tunique rouge. Il aime ce sport, depuis qu'il est tout petit. En 2003, alors qu'il n'avait que 17 ans, le président du club mauve lui a fait signer son premier contrat professionnel. Le capitaine de l'équipe se blesse et Kompany prend naturellement sa place dans l'axe. En 2004, sa carrière a décollé. Ronaldinho vient le saluer et ils échangent leurs maillots. Compagny dépasse le Brésilien de presque deux têtes. D'un regard amusé vers Vermaelen, son coéquipier dans l'axe de la défense, il fait mine de gonfler les pectoraux. Jouer les JO est pour cette génération une opportunité formidable et il enrage Vincent après cette entame ratée. D'autant que ce qu'ils ont montré tout le match était solide, particulièrement probant même. Mais la dure loi du sport a repris le dessus et, comme cela peut parfois être le cas, elle a été injuste. Le football, finalement, pour lui, c'est une métaphore de la vie, la nécessité de faire bloc ensemble, d'encaisser les coups sans rompre et de saisir les opportunités qui se présentent. De retour au vestiaire, calmement assis sur les bancs de ce magnifique stade tout neuf, Vincent Compagny regarde ses coéquipiers en silence. Le coach est là, il essaie de remobiliser les esprits. Mais alors qu'il n'a pas le brassard, Compagny décide de se lever. Son entraîneur, pas bête, avait anticipé le mouvement. Il laisse faire. Et dans l'intimité d'un vestiaire, dans l'atmosphère de la défaite et de l'injustice, les mots qu'il prononce vont toucher les soldats qui sont là et qui, sans rompre, ont pris un coup sur la tête. Là, une phrase pour Dembélé. Ici, quelques mots pour Vertonghen ou Miralas. Tous, à la sortie de cet après-match unique, ressortent la tête haute, face à des Brésiliens encore dans l'euphorie de leur victoire. Mais Ronaldinho, déjà prophète de Rio, ne s'y trompe pas. Cette équipe en a dans le ventre, et sa jeunesse bientôt aura les armes pour terroriser les nations du monde entier. Le président de la fédération, lui, se charge de prendre à la volée les premières critiques envers son staff et ses joueurs, avec l'objectif clair de les protéger et surtout de laisser parler la magie. Le lendemain, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2008 est un moment fort qui permet de souder les esprits et d'en prendre plein la vue. La plupart des joueurs des Diables Rouges présents ont entre 19 et 22 ans. Ils ne sont qu'aux prémices de leur carrière. Ils n'ont pour la plupart pas encore exprimé leur plein potentiel. Mais ce qu'il s'est passé dans le vestiaire la veille a permis avec magie, dans l'adversité, de créer un groupe soudé, fier de jouer les uns avec les autres. Après les paroles, les actes. Le 10 août 2008 se profile sur la route de la Belgique la Chine, le pays organisateur. Bien que battre cet adversaire soit réalisable, cette équipe est portée par tout un pays. La première déconvenue face aux Brésiliens ne laisse pas le droit à l'erreur. Il faut gagner, coûte que coûte. Le coach de cette jeune équipe des Diablotins, satisfait de son système, le reconduit. Afin de maintenir les remplaçants au même niveau d'exigence, il décide de sortir deux de ses titulaires. Fellaini et Compagny sont appelés au repos. L'absence de ces deux leaders ne va pas heureusement empêcher la Belgique d'empocher ses trois premiers points. Une victoire nette, sans être impressionnante, par 2-0. L'équipe se replace, mais rien n'est joué. La Chine et la Nouvelle-Zélande, l'autre équipe du groupe, ne sont que deux points derrière. Perdre contre les Néo-Zélandais, et c'est la porte. Et ça, il en est totalement hors de question. La tension est maximale lors du match qui se déroule quelques jours plus tard. L'expérience se gagne dans les défis et au prix de grands efforts. Toujours grâce à une défense solide et efficace, les Belges se qualifient en gagnant 1-0. Le seul point noir, c'est la prolongation de Compagny sur le banc. Le coach estime que Simès est une valeur plus sûre aux côtés de Vermaelen dans l'axe défensif. Il ne va plus rejouer de la compétition, le jeune joueur de Hambourg, mais il va considérablement gagner en patience et en leadership. Il est véritablement l'un des moteurs de ce groupe. Voilà les Diables en quart de finale, avec l'objectif d'entrer dans le dernier carré d'une compétition. Sur leur route, un adversaire redoutable, un pays qui porte le football en étendard, l'Italie, championne du monde en titre. La jeune génération est tout aussi terrible que l'équipe A. Elle s'est qualifiée première de son groupe. Dès le début du match, Vermaelen est expulsé pour une vilaine faute. Les Diables jouent à 10 contre 11 la quasi-totalité du match. À la mi-temps, et presque de manière miraculeuse, la Belgique mène grâce à un but de Miralas juste avant le coup de sifflet. 2-1. Toute l'équipe souffre dans le deuxième acte, Les Italiens reviennent à égalité et cette fois, la fin du match tourne en faveur des Diables. Un deuxième but de Dembélé à 10 minutes de la fin et c'est toute la fédération qui exulte. François de Kersmacher, le président, a gagné son pari. Personne ne les voyait à cette place au début du tournoi. Une médaille est à portée du pays, certes, mais surtout, une jeune génération de footeux, le couteau entre les dents, est prête à prendre le pouvoir. La fin de ce tournoi marque peut-être la première pierre de la réputation de génération dorée mais maudite qui colle à la peau de ses joueurs depuis cette date. En effet, ils chutent lourdement contre le Nigeria, autre surprise de la compétition. Ils perdent toute leur structure défensive, encaissant 4 buts, dont 3 en deuxième mi-temps. Et pour ne rien arranger, ils retrouvent le Brésil pour le match des perdants, celui pour la médaille de bronze. La chute là aussi est lourde. Défaite, 3-0. Une véritable boucherie. Comme vous pouvez l'imaginer, les jeunes rentrent au pays avec un sentiment d'inachevé et une déception chevillée au corps. Rongés par ce sentiment de défaite, rentrant chacun dans leurs différents clubs pour la saison qui parfois a déjà débuté, ils n'en oublient pas l'essentiel. Pour la première fois depuis longtemps, la Belgique est en train de bâtir une armada qui regarde du côté de l'Afrique du Sud. En 2010, le pays de Mandela organise la Coupe du Monde. Et cette fois, les Belges ne comptent pas louper le train et rester à quai. Non, cette fois, tunique rouge sur le dos, fiers de jouer pour leur pays. Ils comptent bien faire vibrer toute une nation qui n'attend que ça. François de Kersmacher, lui, gagne les élections. Il est donc prolongé à la tête de la fédération. L'aventure des mondiaux peut débuter. Il voit déjà plus loin. Au fond, 2010 n'est qu'une étape. L'inavouée quête au trésor est plutôt celle d'être reconnu vainqueur soit en 2014, soit en 2018. Les billes se mettent en place tout doucement. Il veut conjurer le mauvais sort et que la Belgique devienne l'une des places fortes du football mondial. Alors que personne ne l'espère plus et qu'on lui rit parfois au nez lorsqu'il développe cet objectif, le président de la Fédé, lui, croit en sa bonne étoile. Et bientôt, en effet, les plus ricaneurs vont ranger leurs moqueries au vestiaire. Pour de bon.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Notre heure H se consacre aujourd'hui à une des générations les plus brillantes que la Belgique du football n'ait jamais portée. Les Diables Rouges qui, depuis 2008, portent haut les couleurs de notre pays, arrivent au Qatar cette année au tournant de leur longue carrière. En effet, pour bon nombre d'entre eux, Vertonghen, Alderweireld ou Hazard en tête, c'est certainement l'heure du chant du cygne et la dernière chance de décrocher un titre. Alors, maudite cette génération des Diables, retour aujourd'hui sur cette réputation qui leur colle à la peau, parfois injustement. Nous sommes le 11 octobre 2013, 23h. Le sélectionneur du pays, Marc Wilmots, est aux anges. La Belgique, après avoir loupé 2 éditions de la Coupe du Monde, ira bien au Brésil en 2014. Dans le froid croate, face à une équipe compacte et bien en place, un doublé de la machine Lukaku a permis de terminer en apothéose l'un des plus beaux parcours du football du plat pays. Les Diables, enfin, retrouvent leur place. Ce soir, ils sont 5e au classement des nations de la FIFA. C'est le niveau le plus élevé jamais atteint par la sélection. Wilmots n'a pas manqué de féliciter ses joueurs, son capitaine, Vincent Kompany et la génération dorée qui suit à la queue leu-leu derrière lui. Depuis les JO de 2008, le chemin a été long et périlleux. Wilmots, d'abord adjoint, est devenu en 2012 le coach principal. Son prédécesseur, il faut le dire, n'a pas forcément été à la hauteur. Alors que la 4e place au JO ouvrait la voie à un immense espoir, la campagne de qualification pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud a laissé un douloureux sentiment d'inachevé. Défaite face à l'Allemagne, la Turquie, puis un nul 4-4 face à l'Autriche, avant un redressement spectaculaire. Mais en partage face au modeste Azerbaïdjan et la deuxième place du groupe, synonyme de barrage, leur échappe encore. Fin des espoirs. La jeune génération incarnée par les compagnies de Four, Hazard, De Bruyne & Co. n'a pas transformé l'essai. Pire, pour la deuxième fois d'affilée, François de Keersmaeker, le truculent président de la fédération, va regarder la Coupe du Monde de son salon. Pour autant, l'espoir de mise, la construction de cette jeune équipe en pleine ascension, est pour tous les membres de la fédération une évidence qui pousse à faire des sacrifices et à laisser les clés du camion à ce sélectionneur qui semble trouver la bonne carburation, d'abord en tant qu'adjoint et maintenant en tant que boss. 2010 est un échec. L'Espagne est sacrée championne du monde et 2 ans plus tard, pour l'Euro 2012, tout le monde s'attend à voir la Belgique au rendez-vous. C'est un échec. Un de plus. Les Diables se font doubler par la Turquie et ratent le train encore. Le constat, lui, ne change pas. Que de progrès, que de beaux jeux, mais pas de résultat, zéro. Wilmots, à peine installé sélectionneur, sent déjà le vent du boulet qui lui souffle aux oreilles. La Coupe du Monde au Brésil de 2014 ressemble dès lors à la dernière chance. Ainsi, ce succès en Croatie est la validation de ce billet, premier du groupe, du jamais vu depuis longtemps, c'est une bouffée d'air frais. La compétition s'engage l'année suivante avec sensiblement le même groupe de joueurs que lors de la campagne de qualification. Et le casting est de haut vol. Tous les titulaires jouent dans des clubs de très très haut niveau. Courtois, dans les buts, est déjà une référence. La charnière centrale est monstrueuse. Hazard et De Bruyne au milieu sont des terreurs de défense. Et à la conclusion, Lukaku est déjà un chasseur de records. Tout semble indiquer que la Belgique sera l'une des belles surprises de la compétition. Le groupe de la Belgique est homogène. L'Algérie dispose elle aussi d'une belle génération qui peine à confirmer. La Russie est loin d être une équipe extraordinaire et la Corée du Sud, elle, est peut-être la plus dangereuse. Le match d'ouverture contre les Fenech algériens est mal embarqué. Longtemps menée 1-0, la Belgique s'impose 2-1 in extremis. L'engouement dans le pays est total. Les supporters, enfin, profitent d'avoir leur pays représenté dans une grande compétition internationale. Et ces jeunes font honneur au drapeau. Le deuxième match, face à la Russie, est longtemps indécis, lui aussi. Mais 2 minutes avant la fin du match, un goal venu d'ailleurs permet à la Belgique de s'imposer. Les huitièmes de finale sont proches. Un nul suffirait face à la Corée. Les Diables décident de ne pas s'en contenter et s'imposent également. 3 matchs, 3 victoires, mais peu de buts marqués et surtout, certaines carences qui interpellent. Le chemin vers les quarts de finale passe par les États-Unis. Une jeune équipe aussi, talentueuse, mais tout à fait à la portée des Belges. Le sort s'acharne. Aucune des 2 équipes ne trouve la faille dans le temps réglementaire. Toute la Belgique suffoque. Pitié. Pitié, pas les tirs au but. Heureusement, 2 buts de Lukaku et de De Bruyne viennent permettre la qualification. La réduction du score par les Américains ne change rien. Pour la première fois depuis les années 80, les Belges font partie des 8 meilleures équipes du monde. La marche suivante, hélas, sera trop haute. L'Argentine d'un certain Lionel Messi les élimine en marquant d'une manière totalement inattendue un but à la 8e minute de jeu. Les Belges, pourtant armés offensivement, n'arrivent pas à revenir. Peu importe. Le bilan de cette Coupe du Monde 2014 est extrêmement positif. Les éliminatoires pour l'Euro 2016 sont largement couronnées de succès. Première place. Tête de série pour le tirage au sort à venir et surtout, et pour la première fois de son histoire, la Belgique devient numéro 1 du classement FIFA. Elle va rester sur ce trône pendant de longues années. Son groupe pour la compétition que tout un pays espère gagner n'est pas simple. Italie, Irlande, Suède. L'ouverture du tournoi est un ratage total. Défaite 2-0 contre des Italiens en quête d'un titre depuis 2006. Heureusement, 2 victoires ensuite permettent de se qualifier pour la phase finale. la Hongrie est balayée 4-0. Une première historique à ce stade d'une compétition pour les diables. Et le Pays de Galles en quart de finale n'est pas un obstacle qui fait peur à grand monde. La demi-finale leur tend les bras. Enfin. Mais alors que tout semble présager d'un avenir radieux pour ce match, la physionomie de la partie, elle, sera tout autre. C'est la défaite, 3-1, après une domination nette et une ouverture au score précoce. Les espoirs s'envolent. La carrière de Wilmots, elle, se crache. Le président de la fédération, François de Kersmaeker, jette lui aussi l'éponge. C'est l'heure des grands changements. Dans la force de l'âge, cette génération de joueurs ultra-talentueux commence à croire qu'elle est maudite. La fédération décide de consacrer tous les moyens pour mettre le coup d'accélérateur nécessaire pour gagner enfin une compétition et offrir au pays la confirmation de cette première place au classement FIFA. Pour cela, un coach d'envergure est nécessaire. Et les dernières expériences ont montré que faire confiance à quelqu'un du pays n'était pas forcément l'idée de génie. C'est à ce moment que se retrouve sur le marché des entraîneurs un homme qui sort d'une expérience convaincante au club d'Everton. Il s'appelle Roberto Martinez. Et c'est lui qui parviendra presque à toucher du bout des doigts le rêve de gagner une Coupe du Monde avec ses hommes. Voici maintenant que se profile en 2018 la plus prestigieuse des compétitions en Russie. Le parcours des Diables durant cet été-là sera digne des plus grandes tragédies grecques. Tous les ingrédients sont réunis pour enfin remporter un succès historique. Mais l'injustice, comme souvent avec cette génération en quête de résultats et de reconnaissance, n'a pas dit son dernier mot.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache traverse le destin d'une génération de sportifs belges partenaires au sein d'une des plus talentueuses équipes de sport collectif de notre pays. Ces Diables Rouges, sur le devant de la scène dès 2008, ont pu, grâce à un incroyable esprit d'équipe, construire une armada prête à déferler sur le monde. Après deux Coupes du Monde vécues depuis leur divan, ils se qualifient pour la plus belle des compétitions au Brésil en 2014 et se hissent jusqu'au quart de finale. Si l'Euro 2016 est une déception nette, conduisant à de grands changements à tous les niveaux, le pays, par ses résultats probants, se hisse pourtant au premier rang des nations FIFA. Une extraordinaire performance pour une équipe à qui l'on colle injustement une étiquette de loser. Le mondial en Russie, qui se profile en 2018, est l'occasion rêvée pour justifier son statut de premier de cordée. Le parcours du pays dans cette compétition, lui, va entrer dans la légende. Nous sommes le mardi 10 juillet 2018. Il est plus ou moins 23 heures. C'est la fin de tous les espoirs pour les Diables, battus par la France au terme d'un match frustrant et dont l'issue peut paraître injuste. Un coup de casque d'Umtiti sur corner, contre le cours du jeu, suffit à faire chuter le colosse au pied d'argile de son piédestal, alors même que le plan de Roberto Martinez est bien en place. Mais tout de même, quel parcours! Les Diables, qui se vengeront en emportant la troisième place contre l'Angleterre, nourrissent après cette compétition des regrets immenses qui vont peiner à s'estomper. Les discours de certains joueurs belges seront interprétés comme ceux émanant de mauvais perdants. Mais comment ne pas comprendre cette frustration, alors même que tout, encore une fois, semblait aligné. Éliminer le Japon au terme d'un match totalement dingue où le destin de toute l'équipe est suspendu à un fil quelques minutes avant le coup de sifflet final. Puis une victoire probante, éclatante, face au Brésil pour se hisser dans le dernier carré et patatras. Les Français, certes futurs champions du monde, mais au détriment du beau jeu durant toute la compétition, ou presque, contrecarrent les plans offensifs des Rouges et finissent par faire céder la muraille Courtois, restée sur ses appuis le temps d'un malheureux coup de coin. Alors la victoire contre l'Angleterre est magnifique, certes, mais amère. À la sortie de la compétition, la plupart des membres du staff diront que le match contre le Japon reste le plus beau souvenir de ces quelques semaines passées en Russie. huitièmes de finale sont évidemment la première marche à franchir pour rêver à une hypothétique victoire. Avec une équipe particulièrement bien équilibrée, la Belgique fait d'abord deux erreurs défensives, loin de ses habitudes. Elle se retrouve menée par 2-0 à 40 minutes de la fin du match. Les Japonais resserrent les lignes. Une victoire paraît totalement hors de portée, voire impossible. Pourtant, ce qui va se passer à Rostov tient du miracle. Après la réduction du score de Vertonghen sur un ballon en cloche, un coup de casque du chevelu Fellaini remet tout le monde à égalité. Il ne reste plus que 15 minutes à jouer. 15 minutes durant lesquelles il ne se passe rien. Au bout de la nuit, alors que le temps additionnel arrive à son terme et que des prolongations des plus dangereuses se profilent, les Belges repartent à l'attaque une ultime fois. De Bruyne décale sur son côté droit, le cuir arrive sur Lukaku dans la surface, cerné par deux costauds japonais. Et là, éclair de génie, inspiration presque magique. Il laisse passer le ballon et Chadli surgit derrière pour frapper en force. 3-2 à la dernière seconde et surtout, un ticket pour un match de gala face au Brésil qui se soldera lui aussi par une victoire. Troisième en Russie donc, les Diables Rouges sont accueillis en héros à leur retour à Bruxelles. Tout doucement, l'amertume au fond des bouches s'efface. Un euro de nouveau se profile. Alors qu'il était initialement prévu en 2020, la pandémie provoque son report l'année suivante. Et une nouvelle compétition fondée par l'UEFA, la Nation League, doit aussi être le moyen de glaner enfin un titre. Tout un pays alors se remet à y croire. Les jambes, dans certains cas, deviennent lourdes. Compagnie annonce sa retraite et même si les valeurs sûres sont encore là, il est nécessaire d'incorporer de jeunes talents. Heureusement, le vivier est là, bien présent. Les espoirs restent perdus. C'est un crève-cœur de voir les premiers pionniers quitter la scène sans une récompense notable. Peut-être pense-t-on que la malédiction sera levée grâce à ce nouveau sang qui arrive. Il n'en est rien. L'Euro 2021 est aussi un échec, avec une défaite 2-1 en quart de finale face à l'Italie, future championne. Maigre lot de consolation de se dire que l'on perd à chaque fois contre les vainqueurs. La Ligue des Nations l'année suivante n'est pas la bonne non plus, se soldant par une nouvelle défaite contre la France, cette fois non discutable. Mais l'impact de ces deux générations de joueurs sur l'aura prise par l'équipe nationale est tout sauf négligeable. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le placard à record. Le top 6 des Belges les plus capés de l'histoire est composé d'internationaux encore en activité, qui joueront encore au Qatar, tout bonnement exceptionnel. Le joueur ayant le plus marqué de buts pour le pays, Lukaku. Le deuxième, Hazard. Le joueur ayant porté le plus de fois le brassard de capitaine, encore lui, Hazard. Les chiffres sont stratosphériques. La portée symbolique de leur performance est immense. La confiance qui émane des uns et des autres, perceptible sur le pré et en dehors, est unique en son genre. Aucune autre sélection européenne ne peut se targuer d'avoir la même bande de copains en place depuis plus de 10 ans. Alors, bien entendu, chaque supporter des Diables espère voir le signe indien vaincu au Qatar cet hiver. Mais même si cette belle équipe nationale n'atteint pas le Graal à l'issue de la compétition, c'est peut-être pas l'essentiel. Après tout, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, la tournée d'adieu de ceux qui ont permis de redorer le blason d'une fédération moribonde depuis longtemps doit avant tout être pour nous tous l'occasion de les remercier. Parce que même sans titre, ils nous auront fait vibrer à chaque rendez-vous depuis ces fameux JO 2008. Et c'est bien tout ce qui compte, non ? Voilà donc pour cet épisode que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.